Nous sommes en mars 2017 et vous écoutez l'épisode 85 chronique de Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Dédé Schutz et pour m'accompagner ce mois-ci, j'ai personne. C'est un retour en solo pour cette présentation. J'aime à croire que les gens sont occupés de ci, de là, à faire leurs affaires et que c'est pas mon humour douteux qui les a fait fuir. Merci à la boutique Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Philibert, ils sont toujours là, eux. Philibert, c'est une boutique à Strasbourg et surtout une boutique en ligne qui vous propose toute une sélection de jeux de société sur philibernet.com. Et un grand merci à nos tipeurs de soutenir ce podcast. Ils sont là aussi, toujours eux. On les remercie. Et merci à la famille Blu pour son don en nature. Et du coup, comme je suis tout seul, je vais pas digresser des heures. C'est ça là qui est la bonne nouvelle. Donc on va commencer tout de suite avec les chroniques. J'ai mis Père Castor en premier parce que sinon il va se sentir lésé que déjà je l'invite pas et qu'en plus si je passe en dernier ça va pas aller quoi. Donc pour les bonnes relations, on va écouter tout de suite Père Castor qui nous parle de l'auberge sanglante.
Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs et bienvenue dans ce nouveau numéro de Top 500 BGG. Aujourd'hui, je vais vous parler de L'Auberge Sanglante. C'est un jeu de Nicolas Robert, édité par Pearl Games et illustré par Weberson Santiago. Le jeu est sorti en 2015 à l'occasion de Essen et il est jouable de 1 à 4 joueurs. Le jeu pointe à la 674e place au classement BGG, mais à la 407e place dans la catégorie stratégie. Le jeu nous plonge dans les années 1830, dans un village reculé de l'Ardèche, sur la route des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'univers est tiré du film L'Auberge Rouge avec Fernandel. Vous êtes associé dans une entreprise familiale en tant que tenancier d'auberge, dont le but est d'engranger des revenus conséquents pour gagner la partie. À ceci près que les revenus ne vont pas venir d'une activité traditionnelle d'aubergiste, mais du détroussage des hôtes que vous allez héberger. Et cette funeste entreprise vous conduira à vous débarrasser également du cadavre des hôtes que vous aurez non seulement assassinés mais également détroussés. À chaque tour de jeu, l'auberge va se remplir de différents passants et vous pourrez effectuer deux actions. La première action disponible est le recrutement d'un des clients par corruption. Ce client va donc devenir un de vos hommes de main. L'autre action disponible va être l'assassinat d'un client. Vous allez donc vous retrouver avec son cadavre sur les bras, mais vous ne toucherez pas encore l'ensemble de son pactole. L'autre action disponible sera la construction d'une dépendance qui viendra rajouter une pièce à votre auberge. Cette nouvelle pièce est représentée par la carte d'un client que vous avez déjà corrompu. En fait, les cartes, elles ont une double action. Elles représentent à la fois un client et une dépendance si on choisit de construire la pièce associée à ce client. Construire des dépendances vous ramène des effets bonus et vous permet également d'y glisser des cadavres en dessous pour s'en débarrasser et empocher leur pactole. Alors la mécanique repose sur du hand building parce que pour effectuer ces différentes actions, vous allez devoir utiliser des cartes de clients que vous avez déjà dans la main. En fait, les cartes clients ont chacun un niveau qui va de 0 à 3. Et pour effectuer une des actions sur un de ses clients, il va falloir utiliser un nombre de cartes équivalent à son niveau. Si par exemple je veux tuer un client qui est de niveau 2, je vais devoir défausser deux cartes clients de mon équipe d'hommes de main que j'ai précédemment recrutées. Alors certains clients ont une affinité pour une action, ce qui va me permettre de les conserver si je leur fais effectuer des actions qu'ils aiment bien. Par exemple, si j'ai recruté un prêtre dont l'affinité est l'enterrement de cadavres, je ne vais pas devoir le défausser, je vais pouvoir le conserver pour effectuer une autre action avec dans un tour suivant. Par contre, si je lui demande d'aller tuer un client dans l'auberge, ça va pas lui plaire et une fois l'action effectuée, il quittera mon équipe d'hommes de main. Alors le sel du jeu repose sur le fait d'avoir les bons hommes de main au bon moment pour effectuer les bonnes actions. Sinon, on va systématiquement devoir se débarrasser de ces hommes de main et devoir en recruter de nouveaux pour les tours suivants. Alors des fois, on va essayer de programmer les actions qu'on va réaliser, mais c'est assez difficile parce qu'on n'a que deux actions dans un tour de jeu et à la fin du tour, l'ensemble des clients va être remplacé par de nouveaux arrivants. Du coup, j'ai souvent l'impression d'avoir les mauvaises cartes en main par rapport aux actions que je voulais réellement faire. Et on n'arrive pas toujours à faire toutes les actions qu'on aimerait. On est souvent assez tiraillé si on doit effectuer un meurtre ou si on doit faire du recrutement ou si on doit en profiter pour construire une nouvelle dépendance. Et en plus, les forces de l'ordre en présence dans l'auberge peuvent mettre une grande pression. Parce que si on se retrouve avec un cadavre non enterré, donc avec un cadavre sur les bras, et qu'à la fin du tour, un membre des forces de l'ordre est toujours présent dans l'auberge, il va y avoir une enquête de police et on va devoir payer une grosse amende et on perdra le cadavre qu'on avait sans empocher sa bourse. Donc au final, c'est très thématique, Du coup, dans ce genre de situation, on n'aura que deux solutions avec ce membre des forces de l'ordre. Soit il faudra également le tuer, ou alors le corrompre pour qu'il rejoigne notre équipe d'hommes de main. Pour ce qui est des illustrations, les cartes sont magnifiquement illustrées dans un effet très cubique, ce qui colle parfaitement à la thématique assez subversive du jeu. Pour ce qui est du matériel, on retrouve essentiellement des cartes, un petit plateau de jeu qui fait office de piste de score et de table d'hôte de l'auberge, et des pièces de punch qui représentent les billets de banque. Vous trouverez la boîte de l'auberge sanglante chez notre partenaire Philibert au tarif de 22,50€. Et si vous avez toujours rêvé de décrocher une étoile au guide Michelin, n'hésitez pas à essayer l'auberge sanglante. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode, et d'ici là, jouez bien!
Alors, merci Père Castor pour cette chronique. Alors, j'ai remarqué ton petit subterfuge, il n'est pas dans le top 500, mais dans le top 500 stratégie. C'est malin, je t'ai à l'œil quand même. Et donc, vous l'aurez appris ici, il faut mieux éviter de dormir chez Père Castor parce qu'il aime bien ce jeu, donc peut-être que vous finirez dans son jardin. Alors, attention, si vous devez dormir chez Père Castor. Et si Père Castor vous a tué et que vous venez le hanter en tant que fantôme, il va sûrement demander à Cyrus de venir l'aider à décoder le message que vous enverrez. Parce que Cyrus nous présente dans les plateaux numériques, ce mois-ci Mysterium, donc le fantôme qui vient se venger pour retrouver son assassin. Alors on va écouter Cyrus tout de suite.
Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, bienvenue dans ce nouveau numéro des plateaux numériques. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mysterium. Alors Mysterium, c'est un jeu de Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko, donc ce sont deux auteurs ukrainiens. Mysterium est la refonte d'un jeu qui a été initialement édité chez Portal, dont je vous ferai grâce du nom, parce que je pense que je n'arriverai pas à le prononcer, et qui a donc été repris, ce jeu, et quelque peu modifié par Libellule en 2015. Pour porter donc le nom de Mysterium. Mysterium a été illustré par Igor Burlakov, qui faisait partie du groupe d'illustrateurs de la version polonaise, et c'est Xavier Collette qui s'est occupé de reprendre les autres illustrations. Mysterium a rencontré un très grand succès à travers le monde, puisqu'il s'est écoulé à environ 300 000 exemplaires, et a eu le droit à une première extension, et va même bientôt voir naître une seconde extension. Compte tenu de tout cela, il n'est pas étonnant de voir Asmodée Digital s'être lancé dans son adaptation sur écran. Sauf que Mysterium, qu'est-ce que c'est ? Mysterium, c'est un jeu coopératif pour 2 à 7 joueurs. Un jeu asymétrique dans lequel un joueur va jouer le fantôme d'un manoir qui va envoyer des indices sous la forme de cartes vision aux autres joueurs qui incarnent les médiums venus eux enquêter sur la mort du fameux fantôme. Les médiums devront tour à tour trouver un personnage, un lieu et un objet. Ça ne vous rappelle rien ? Sauf que là, chaque joueur a un trio de cartes différents. Et à la fin, un seul de ces trios sera réellement le trio meurtrier. Alors oui, moi non plus, on pourra me dire ce qu'on voudra, j'ai jamais trop compris thématiquement pourquoi le fantôme envoyait des fausses pistes à tous les médiums, sauf un. Quel farceur ce fantôme. Mysterium, c'est donc la rencontre improbable entre Cluedo et Dixit. Et ça marche même merveilleusement bien. C'est un jeu dans lequel les discussions vont s'engager entre les médiums pour réussir à savoir si cette satanée image de poulet que j'ai reçue est pour me mettre sur la piste de la cuisinière ou de la poule de luxe. À moins que le fantôme ne m'ait pas donné cette image pour le poulet qui est dessus. De la communication, de l'ambiance et un jeu porté sur écran. Si vous avez écouté ma chronique précédente sur Colt Express, vous vous doutez que je suis parti avec un a priori plutôt négatif sur ce portage. Qu'à cela ne tienne, j'en ai malgré tout fait l'acquisition et je compte bien vous en parler. Et donc ce portage, il est assuré par Playsoft Games pour le compte d'Asmodee Digital. Playsoft a également œuvré sur Double, que je n'ai pas essayé, il faut pas pousser sur le jeu d'ambiance quand même. Le jeu est sorti en janvier 2017, donc plutôt récemment, simultanément sur Android, iOS et Steam, et au tarif unique de 6,99€. Pour ma part, je vous parlerai ici de la version iOS, qui est la seule que j'ai testée. Alors parlons de la prise en main du jeu. Le jeu est disponible en 5 langues, dont le français. Voilà bien un premier point positif. Outre une série d'impressions d'écran explicitées qui composent une rubrique « Comment jouer ?», au demeurant plutôt bien faite, l'application propose un tutoriel sous la forme d'une histoire découpée en 9 défis qui vous permet d'appréhender les règles au bout d'environ les 3 premiers défis. Pour ces premiers défis, l'IA guide le joueur pas à pas, ce qui permet de découvrir également l'interface. Une fois encore, Asmodée Digital donc livre un tutoriel d'excellente qualité. En ce qui concerne le mode de jeu, donc on va pouvoir tout d'abord lancer des parties rapides dans lesquelles l'IA va vous placer dans la première partie disponible sans aucun choix d'option. Il est également possible de rejoindre une partie en ligne ou d'en créer une avec la possibilité de choisir le nombre de joueurs, le niveau de difficulté, ces niveaux de difficulté respectant les règles du jeu carton. On peut également lancer une partie en blitz, donc ce qui permet de jouer en ligne avec une IA en guise de fantôme, ce qui a l'avantage de permettre des parties plus rapides. Puisqu'en plus de ça, on ne jouera pas avec le système de clairvoyance. Il existe également un mode solo qui permet de jouer seul avec des IA en guise de partenaire. Alors attention, les parties en ligne doivent être jouées en direct, il n'est donc pas possible de jouer de façon asynchrone. Malheureusement, on retrouve le même problème qu'avec Colt Express, c'est-à-dire que la masse critique de joueurs n'est pas atteinte. Comme dans Colt Express, on peut voir le nombre de joueurs qui sont connectés, alors ce qui permet de savoir si on a une chance ou pas de réussir à lancer une partie à un moment donné. Alors je vous avoue, personnellement, le maximum que j'ai vu dans le nombre de joueurs, c'était 9. Il est difficile de trouver même jusqu'à 4-5 joueurs en même temps, et encore faut-il que ces joueurs veuillent réellement jouer au moment présent. Et là, moi je réalise la chronique, donc nous sommes le 20 mars, et donc l'application est sortie il y a quand même un peu plus de 2 mois maintenant, et malgré tout, cette masse critique n'est pas complètement atteinte. Alors, on arrive à jouer, à faire des parties à 3-4 joueurs. Il faut parfois attendre un peu, selon les moments de la journée en particulier. C'est à savoir, c'est quand même embêtant. On notera que l'application ne propose pas de jeu multi en local, ce que je trouve un peu dommage, parce qu'on aurait pu imaginer pouvoir jouer à deux sur la tablette, par exemple, en faisant appel à une IA pour jouer le fantôme. Ça aurait pu être plutôt sympa. En ce qui concerne les autres fonctionnalités disponibles, on va trouver un système de rang, donc de classement des joueurs par semaine, le classement de tous les temps. Classiquement, on retrouve des options de réglage de son et on a la possibilité d'acheter une extension qui est la première extension qui est sortie pour Mysterium, Hidden Sign, pour un prix de 1,99€. Il est possible de jouer malgré tout avec cette extension, même si on l'a pas, si on intègre une partie dans laquelle un joueur possède cette extension et l'a ajoutée à la partie. En ce qui concerne l'ergonomie du jeu, je la trouve assez réussie. On a vu mieux, mais il faut avouer qu'il est assez difficile de faire mieux sur un jeu comme celui-là. On n'arrive pas à avoir une vue d'ensemble, mais on arrive quand même assez facilement à passer d'un joueur à un autre pour voir les cartes qu'il a déjà reçues, pour réaliser des actions vers ce joueur par exemple. Malgré tout, une des choses que je regrette particulièrement, c'est le système de loop. En fait, plutôt que d'avoir la possibilité de grossir une carte en grand écran, en plein écran, ils ont proposé un système de loop, c'est-à-dire qu'en fait il va falloir mettre son doigt sur une partie de la carte, ce qui va faire apparaître une loupe, et ensuite on va déplacer la loupe pour pouvoir voir des zones agrandies. Alors c'est pas très bien fait en plus, parce que le point sur lequel on appuie, c'est pas forcément le point qui va se mettre sous la loupe au départ. Et puis, j'aurais trouvé ça tellement plus simple de pouvoir double-cliquer sur la carte et la voir en grand sur l'écran de la tablette. Je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont pas fait. Surtout que c'est ce système-là qu'on trouve à la fin, au moment de la dernière phase de jeu, lorsqu'on a les trois cartes exposées par le fantôme. Sur un autre volet, donc afin de retranscrire les communications entre les joueurs, l'application met à disposition un chat, donc qui est un chat fermé au niveau de la partie, donc qui permet au médium de discuter entre eux. Le fantôme, lui, peut lire ce qui est écrit, mais évidemment, il peut pas interagir, donc il peut pas parler aux autres joueurs. Ce que je trouve dommage sur cette partie-là, alors outre le fait que évidemment ça ne remplace pas la parole, c'est que il n'est pas prévu en fait de pouvoir filtrer les parties par langage. C'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de francophones, je pense qu'ils ne parlent pas anglais, et j'imagine que ça doit quand même un peu faire peur de voir ce chat en anglais qu'on voit déjà en fait au moment des créations de parties. J'aurais trouvé ça plutôt malin et d'avoir une fonctionnalité qui permet de filtrer les parties et le chat par langage. Alors évidemment, ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on n'atteint déjà pas la masse critique. Cela dit, est-ce que ça aurait pas ramené des joueurs purement francophones ou purement hispanophones, par exemple, sur l'application? C'est pas exclure. Et dans tous les cas, il n'aurait pas été interdit aux joueurs de dire « Moi, j'accepte toutes les langues sur le chat, par exemple ». En ce qui concerne l'ambiance sonore, je la trouve plutôt réussie. Je pense que je tenterai même de l'utiliser dans des vraies parties, ce que je n'ai pas encore l'occasion de faire. Une autre bonne idée dans l'application qui a été ajoutée il n'y a pas très longtemps, c'est la télépathie. En fait, c'est un système qui permet de toucher une zone d'une carte et ça va envoyer une petite notification au joueur pour lui dire « regarde ici ». Ça va permettre en fait d'attirer l'attention d'un joueur sur une partie de la carte. Ça peut par exemple remplacer les chats, ce qui n'est pas toujours évident non plus d'écrire rapidement, surtout quand on est dans la partie timée, c'est-à-dire qu'une fois que le fantôme a donné des cartes à tout le monde, on se retrouve avec un chronomètre et là pour taper et en anglais, la plupart du temps, ça peut devenir un peu plus compliqué. L'application propose également de jouer sans la clairvoyance, ce qui va permettre de rendre le jeu un peu plus rapide et ce qui va renouer, si je dis pas de bêtises, avec le jeu d'origine, mais j'avoue que je n'y ai joué qu'une fois. J'ai un petit doute là-dessus. Mais il me semble que la clairvoyance était un ajout de Mysterium. Dernier point dont je voulais parler, c'est l'IA. Je trouve que l'IA est vraiment réussie, et ça je pense que c'était le défi majeur du portage de ce jeu. Il fallait quand même réussir à faire une IA qui envoie des cartes pertinentes, et qui sache réceptionner ces cartes de façon pertinente. Alors j'imagine qu'ils ont dû mettre en place un algorithme de rapprochement des cartes entre elles. Je vois pas trop comment on aurait pu faire autrement. C'est-à-dire que je suis pas spécialiste de la question. En tout cas, je trouve que c'est plutôt réussi. L'IA envoie des indices qui paraissent cohérents et elle réceptionne également les indices de façon relativement cohérente. C'est même assez bluffant pour tout vous dire. En résumé, on a un portage avec une IA réussie, avec une interface plutôt bien faite, bien que perfectible, en particulier sur le choix de la loupe. Quelques ombres au tableau avec un mode multi en local absent et la difficulté à trouver des parties en ligne. La conclusion, je recommande ce jeu aux joueurs qui connaissent Mysterium et qui aiment le défi intellectuel que ce jeu représente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Mysterium, je les engage plutôt à se tourner vers le vrai jeu en carton afin de connaître l'ambiance qui peut se dégager autour de ce jeu. Si vous aimez uniquement le jeu pour l'ambiance qu'il dégage, passez votre chemin. Le jeu est évidemment beaucoup plus froid sur l'écran que dans la vraie vie. Mais voilà, personnellement, je suis agréablement surpris et je peux dire, malgré les défauts que je m'efforce d'énoncer, l'application m'a séduit. Mais je pense que j'aurai plaisir à y revenir de temps en temps. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'était Mysterium, l'application sur iOS. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, jouez bien.
Merci Cyrus pour cette chronique. Et comme on a découvert donc l'assassin qui vous a enterré au fond du jardin de chez Père Castor, cet assassin il va aller en prison. La prison c'est un peu une escape room. Donc on va continuer avec Courju. Courju qui nous propose son retour sur le print and play de Unlock. Mais c'est pas tout parce qu'il va aussi nous rajouter sur Karnak et Luxor et One Deck Dungeon. Encore un dungeon crawl. J'ai l'impression que les dungeon crawl ça marche bien en print and play. On va l'écouter tout de suite.
Clic, bloc, clic, bloc, clic, bloc.
Ça va trancher, chérie.
Mais non, qu'est-ce que tu fais? Il faut dire ça va couper, chérie, pas ça va trancher.
Ah bon?
Mais oui, t'étais où pendant le film, toi?
Ah mais non, parce que je fais ça à mi-temps, ouais. C'est pas un full-time job, donc c'est pour ça que je suis un peu...
Ouais, mais enfin bon, quand même, tu devrais un petit peu t'intéresser.
Non, mais j'essaye de m'intéresser, ça m'intéresse.
Eh, hey, regardez! Le tueur, il s'est blessé au doigt.
Wow!
Il s'est blessé au doigt, le tueur.
Oh là là, mais dis donc, il a l'air sérieusement blessé.
Mais ouais, au doigt.
Salut les joueurs, salut les joueuses. Ici Guilain pour une chronique print and play. Cette chronique-ci va être un peu plus longue que d'habitude, puisque je vais vous parler de trois jeux différents et discuter un petit peu de la façon d'aborder le print and play selon les interlocuteurs. Le premier jeu dont on va parler, c'est Unlock. Donc Unlock, c'est un jeu de Cyril Demeg, Thomas Coé et Alice Carroll, qui est illustré par Florian G5-Cour, Arnaud Demeg, Le Grut et Pierre Santa Maria, est publié chez les Space Cowboys. Il est très fort probable que vous en ayez déjà entendu parler. Il s'agit d'un jeu qui tente de renouveler l'expérience des Escape Rooms sous forme d'un jeu de société. Et donc, moi je vous en parle parce que ils ont donné en print and play un tutoriel pour le jeu et une première aventure de démonstration. Alors, pourquoi je vous parle de ce jeu? Parce que moi, je trouve que c'est une excellente initiative pour un jeu comme ça qui va être édité, d'avoir une démonstration en print and play, voire même, pourquoi pas, d'avoir le jeu complet en print and play, ce qui se fait aussi. Ça permet aux gens éventuellement de le tester avant de l'acheter, mais surtout, ça permet aux gens de faire parler du jeu, de tester le jeu, de voilà, ça fait buzzer un petit peu autour du jeu. Moi, je l'ai fabriqué, donc le tutoriel et la première histoire, je l'ai fait jouer un petit peu autour de moi, et il y a déjà 3 personnes qui l'ont acheté à cause de ça, ou grâce à ça, je sais pas comment il faut dire. Donc pour moi, c'est parfait, c'est un peu le même principe qui avait été fait pour le 7e continent, c'est-à-dire une démo qui donne envie d'acheter le jeu. Ça a été très bien fait, le tutoriel est très clair, très bien fait. La première partie de démonstration montre bien aux joueurs toutes les possibilités qu'il y a derrière le jeu, et du coup donne envie d'acheter le jeu. Les fichiers étaient assez bien faits, même s'il y avait un petit erreur d'alignement, un petit décalage, on n'a pas eu besoin de retravailler le fichier avant de pouvoir l'imprimer. Pour moi, c'est parfait pour un print and play d'un jeu édité. Je vous donne quand même mon avis personnel sur le jeu, je suis absolument pas convaincu par le jeu Unlock, rien à voir avec le fait qu'il soit print and play ou pas print and play, juste pas convaincu par le jeu. J'ai eu l'impression de jouer à un jeu d'énigmes de point and click, un peu comme on peut en trouver en jeu numérique, mais que le jeu de cartes n'apportait rien de plus, voire même alourdissait cette mécanique-là. Du coup, je préfère largement jouer à un jeu d'énigmes sur informatique, type Factory 47, par exemple, qui est un jeu comme ça où on essaye d'observer une image, finalement on en revient à ça, on essaye d'observer une image pour trouver des indices, et en fonction des indices qu'on a trouvés, on va avancer. Et le gros avantage, évidemment, de le faire en informatique, c'est qu'il n'y a pas de risque d'erreur. Moi, bon, sans vous spoiler la première aventure, mais dans Unlock, j'avais trouvé une solution qui m'avait l'air correcte pour un code, mais d'une façon qui n'était pas du tout la bonne. Et du coup, évidemment, le code n'était pas bon, mais c'était très cohérent d'un point de vue de la thématique. J'avais vraiment l'impression d'avoir résolu l'énigme, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour le premier jeu donc de cette chronique, Unlock. Donc évidemment un jeu que vous pouvez trouver toujours en print and play sur le site de l'éditeur et que vous pouvez trouver dans toutes les bonnes crèmeries en jeu édité. Donc je vous ai dit, le print and play contient un tutoriel et une première aventure qui durera à peu près une demi-heure. Et dans le jeu complet, il y a 3 aventures qui durent une heure. Voilà, deuxième jeu dont je voulais vous parler, c'est Karnak et Luxor. Alors là, on est dans un schéma totalement différent. C'est un jeu qui participe à un concours de design. J'en ai déjà parlé plein de fois de ce genre de concours. Donc c'est un auteur amateur. En l'occurrence, petit clin d'œil, c'est un auditeur de Proxy Jeux, Olivier, qui a créé ce jeu. En fait, dans le concours en question, hormis le fait que évidemment c'est un auditeur de Proxy Jeux, donc j'ai eu envie de tester son jeu, mais ils ont mis en place un système en fait où chaque semaine il y a 2 jeux qui sont mis un peu sous les feux de la rampe pendant toute la durée du concours, de manière à ce que les gens comme moi qui sont plutôt joueurs aient envie d'aller voir tel ou tel jeu. Donc Karnak et Luxor, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs, alors d'affrontement pas au sens figurine qui se mettent sur la gueule, mais un jeu d'affrontement on va dire mental, un peu à la façon de Schotten Totten si vous connaissez, c'est-à-dire un jeu où on va devoir essayer de deviner ce que son adversaire va faire. Donc là, je vais vous détailler un petit peu plus la mécanique du jeu. Je vais vraiment vous présenter ce jeu-là, parce que je l'ai trouvé très intéressant et que ça vaut le coup d'aller y jeter un coup d'œil. Donc, sur le principe, donc il y a 2 joueurs face à face. Le jeu est composé de 28 cartes. Une carte de valeur 1, 2 cartes de valeur 2, etc. jusqu'à 7 cartes de valeur 7. Donc vous pourriez jouer avec un jeu de Perse, par exemple. Donc les joueurs sont assis face à face et on leur distribue 10 cartes en main en début de partie. Il y a 4 cartes qui sont face cachée qui constituent la tombe et 4 cartes qui sont face visible qui constituent la vallée. Donc la vallée, c'est un peu le même principe qu'une rivière dans d'autres jeux, mais thématiquement ça colle plus que ça soit la vallée ici, puisque le principe c'est que les 2 joueurs incarnent des prêtres qui vont essayer de démontrer au pharaon que c'est leur temple qui est le favori des dieux. Donc comment on va jouer? On va devoir à chaque tour de jeu choisir une carte de sa main que l'on va venir positionner face cachée en face de l'une des cartes de la vallée. Du coup, on va déclencher l'effet de la carte qui était dans la vallée et on va la récupérer pour la mener dans son temple. Donc son temple, c'est, on va dire, sa zone de jeu qui est face visible devant soi. Puis, la carte qu'on avait jouée face cachée en tout début de tour, là, devant la vallée, va être retournée face visible et prendre la place de la carte précédente dans la vallée. Et puis le joueur suivant fait de même, etc. Et chaque donc carte a un effet différent. À la fin du jeu, vous allez marquer autant de points que la valeur de la carte pour chaque série de cartes où vous êtes majoritaire. Donc si vous êtes majoritaire, par exemple, sur les 7 et sur les 1, vous avez marqué un total de 8 points. Si l'adversaire il est majoritaire sur les 2, les 3 et les 4, par exemple, ben, lui va nous marquer un total de 9 points. Les effets des cartes permettent d'aller échanger des cartes entre la vallée et la tombe, entre sa main et la vallée, avec le temple adversaire, etc. Alors j'aime beaucoup le concept de la carte que je joue, finalement c'est pas cette carte-là dont je vais appliquer l'effet, au contraire c'est même une carte qui va être disponible pour mon adversaire, puisque la carte que je joue va venir dans la vallée et donc mon adversaire pourra la récupérer. On voit souvent des jeux où les cartes elles ont plusieurs effets possibles. Là en fait c'est pas tellement que la carte elle a plusieurs effets possibles, c'est à chaque action que vous allez faire, il va se déclencher un certain nombre de conséquences. D'abord vous allez avoir un effet de carte qui va être déclenché, un pouvoir. Ensuite vous allez récupérer une carte dans votre temple. Et enfin la carte que vous avez utilisée de votre main va être offerte à l'autre joueur qui pourra éventuellement la récupérer. Et du coup évidemment il y a beaucoup de dilemmes. Est-ce que je vais jouer cette carte-là en espérant que peut-être mon adversaire la prendra pas et qu'elle restera dans la vallée, que je pourrai la récupérer au tour d'après? Est-ce que j'essaye absolument de faire une majorité sur une valeur de carte, mais si je le montre trop tôt à mon adversaire, bah, il va peut-être essayer de me contrer? Est-ce que je vais essayer d'aller planquer des cartes dans la tombe pour les récupérer plus tard? La tombe, c'est les quatre cartes qui sont face cachée et avec lesquelles on va pouvoir interagir. Donc il y a vraiment beaucoup de choix à faire, et plus la partie avance, plus évidemment vous avez une vision claire de ce qui reste dans la main de votre adversaire, de ce qu'il y a dans la tombe, etc. Et donc vous allez pouvoir calculer précisément ce que vous voulez faire. Voilà, donc Karnak et Luxor, vous trouverez le jeu dans les concours de design, je vous mettrai le lien. Actuellement les fichiers qui sont disponibles ont un look très très simple en termes de graphisme. Mais il y a un illustrateur qui est en train de travailler sur le jeu, et donc ben, si vous attendez assez, vous aurez un jeu plus joli, quoi. Voilà, troisième jeu dont je voulais vous parler, One Deck Dungeon, mon coup de cœur du moment. Encore un jeu de dungeon crawl. Je sais que je vous ai parlé plusieurs fois de jeux de dungeon crawl. Donc One Deck Dungeon, c'est quoi? C'est un jeu de Chris Sislik, illustré par Alana Servenak et Will Pitzer, et édité chez Asmodee Games. Donc encore un jeu édité, mais celui-ci est passé par un format Kickstarter, et c'est assez souvent le cas dans les formats Kickstarter qu'il y a un niveau de pledge print and play. Là, c'était pas le cas, les fichiers sont juste disponibles pour qui les veut. Donc c'est un jeu de dungeon crawl. Si vous avez écouté ma chronique sur Mini Rogue, ben on est un niveau un petit peu au-dessus, mais on reste sur un principe assez simple. Le donjon est matérialisé par des cartes qu'on va aller explorer, un deck de cartes, et il y a un boss final à combattre. On a une fiche de perso avec différentes caractéristiques. Combat, on a l'agilité, on a la magie, et on a les points de vie. Le héros que vous choisissez au début, il a un certain nombre de points dans chacune de ses caractéristiques. Et il a des compétences aussi, des compétences qui vont lui permettre de se soigner ou de faire ce genre de choses. Et donc chaque caractéristique, attaque, agilité et magie, sont représentés par des dés. Donc si vous avez 3 en attaque, ben vous avez 3 dés jaunes. Vous avez 4 en magie, vous avez 4 dés bleus. À votre tour de jeu, vous devez toujours faire avancer le temps, matérialiser le temps qui avance par le fait de défausser des cartes du deck. Puis, vous pouvez explorer, donc c'est-à-dire vous offrir des possibilités, on va dire ça comme ça. Quand vous explorez, en fait, vous devez sortir 4 cartes du deck face cachée. S'il y en a déjà, vous complétez juste pour en avoir toujours 4 face cachée. Ça, c'est la première possibilité. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ouvrir une porte. Donc, parmi l'une de ces 4 cartes, vous en retournez une. Et vous allez devoir gérer l'événement. Donc, c'est un monstre ou un piège. Comment ça se passe? Ben, si c'est un monstre, c'est l'exemple le plus simple, vous lancez tous vos dés, et vous allez devoir remplir des cases qui sont sur le monstre. Chaque case peut accueillir un ou plusieurs dés, selon les cases. et sur chaque case, il y a une valeur qu'il faut atteindre avec le dé de la bonne couleur. Alors, un exemple. Voilà, j'ai un exemple. Sur la carte de l'ogre, il y a 3 cases roses, donc qui correspondent à l'agilité, qui sont des petites cases carrées, donc on ne peut mettre qu'un seul dé dessus. Il y a une valeur 4, une valeur 5 et une valeur 6. Et ensuite, il y a 3 cases qui sont plus grandes, donc on peut mettre plusieurs dés dessus, qui sont jaunes, donc qui correspondent au combat, avec une valeur de 6, une valeur de 9 et une valeur de 12. Donc vous lancez tous vos dés et vous essayez de remplir ces cases. Sachant qu'en plus, il y a une carte qui matérialise le donjon et le niveau où vous êtes dans le donjon, qui augmente la difficulté. Vous remplissez ce que vous pouvez comme case, et les cases que vous n'avez pas remplies vont avoir un effet négatif sur vous, qui va être soit de vous faire perdre des points de vie, soit de faire passer le temps, et donc piocher de nouveau des cartes dans le deck. Une fois que vous avez fait votre combat, vous subissez donc les conséquences, perte de points de vie ou perte de temps, ou rien du tout si vous avez réussi à remplir toutes les cases, mais c'est assez rare on va dire. Et ensuite vous récupérez la carte, c'est votre récompense, et vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons différentes. Sur chaque carte, il y a sur la gauche des icônes qui représentent les caractéristiques, combat, agilité, magie, points de vie. Sur le bas, il y a une compétence, et sur le haut, il y a des points d'expérience. Et donc quand vous récupérez une carte comme ça de récompense, vous allez choisir soit d'augmenter donc les caractéristiques de votre héros, soit de rajouter une compétence à votre héros, soit de prendre des points d'expérience pour essayer de monter en niveau. Pour les pièges, c'est un peu le même genre de principe, sauf qu'on n'a pas la possibilité de lancer tous ces dés. On va choisir l'une des caractéristiques et on va lancer les dés de cette caractéristique, sous réserve évidemment que le piège s'y prête. Si je prends un exemple, là j'ai un exemple, c'est un tronc d'arbre avec des piquants dessus. Et en gros, j'ai le choix entre deux possibilités. Soit j'essaye de passer à côté, donc je vais utiliser ma caractéristique d'agilité. Soit j'essaye de les casser, mais ça va me prendre un peu plus de temps. Et là, dans ce cas-là, je vais utiliser ma caractéristique de combat. Et même principe, une fois que j'ai réussi à passer l'obstacle, je récupère soit caractéristique, soit compétence, soit point d'expérience. Vous faites ça comme ça jusqu'à ce que la pioche soit épuisée. Quand la pioche est épuisée, on descend plus profondément dans le donjon, on augmente la difficulté du donjon, et on remélange le deck, on recommence. On fait ça 3 fois, et au bout de 3 fois, on affronte le monstre final, le boss. Évidemment, le boss final est difficile à battre, et vous allez devoir probablement faire le donjon une première fois, vous rendre compte qu'il vous a manqué telle ou telle compétence, ou telle caractéristique, le faire une deuxième fois, en essayant d'équilibrer votre personnage au mieux. Dans les règles, il y a un mode campagne qui est proposé, où en fait votre personnage, selon ce qu'il a réussi à faire dans son aventure, il va gagner un certain nombre de croix qu'il va pouvoir placer sur une grille, et en fonction des croix que vous avez placées sur cette grille, vous avez le droit de commencer votre prochaine aventure avec une compétence en plus, avec des caractéristiques différentes, etc. Donc ce que j'aime particulièrement dans ce jeu, c'est le fait que quand on affronte un obstacle, on a le droit de l'affronter, évidemment, ou de fuir. Quand on fuit, la seule pénalité, c'est juste qu'on perd du temps. Du coup, ça veut dire que plus on perd du temps, plus le deck avance vite. Et donc, quand on arrivera au boss final, on aura moins augmenté les caractéristiques de son héros. Donc on va devoir faire des choix comme ça, on va devoir essayer d'équilibrer. Est-ce que je veux un héros qui est à peu près équilibré dans toutes les compétences? Est-ce que je veux un héros qui fait beaucoup de magie et qui du coup va avoir des sorts qui permettront d'influencer sur le reste des dés? Par exemple, il existe des sorts qui vous permettent de rajouter des dés de combat ou des dés d'agilité que sinon vous auriez pas, des choses comme ça. Vous avez vraiment des choix d'évolution de personnages qui sont très variés, et la gestion du temps est assez perturbante mais très intéressante, parce que vraiment vous allez gérer, ok, j'ai pas de pénalité à fuir un obstacle, hormis le fait que du coup j'aurai moins affronté d'obstacles à la fin. Et c'est vraiment du coup le côté expérience, c'est-à-dire que ok, je prends un risque, j'affronte ce monstre ou j'affronte ce piège, tant pis, je vais perdre des points de dégâts ou autre chose, mais du coup j'ai gagné une compétence ou de l'expérience, même si j'ai échoué. Voilà, donc ça c'est vraiment mon petit coup de cœur du moment, j'ai joué 2-3 fois déjà, j'ai joué que tout seul, on peut y jouer à 2, donc avec le deck de base, il y a des adaptations de règles prévues, et on peut aussi jouer à plus nombreux si on a 2 jeux. Alors du coup, vu que c'est un print and play, finalement c'est pas très compliqué d'en avoir 2, ça coûte pas beaucoup plus cher, Surtout qu'en plus, on n'a pas besoin d'avoir tout en double, il suffit d'avoir juste les cartes du donjon en double, en fait. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Je suis très intéressé, moi, par vos commentaires sur les différentes typologies et votre façon d'aborder le print and play, éditeur, Kickstarter, etc. Moi, j'ai l'impression que pour les Kickstarters, ils ont très bien compris l'intérêt médiatique que ça peut avoir et le comment on peut faire parler d'un jeu avant même que quiconque l'ait eu dans ses mains et étendre son cercle de testeurs et de reviewers, etc. Les jeux édités, ben en France, ça commence à arriver, aux États-Unis un peu plus, j'ai l'impression. Mais voilà, des jeux comme Unlock, moi je trouve ça vachement bien qu'on ait la possibilité de le tester et de le faire tester autour de soi. Parce que moi je sais que clairement, même si c'est pas un jeu que j'ai envie d'acheter pour moi, je suis satisfait de voir que des joueurs autour de moi ont été emballés par le truc et ont vraiment envie d'y jouer. Et on l'a acheté quoi. Enfin, j'y gagne rien au fait qu'ils vont l'acheter, mais ben, je trouve que du coup, le print and play, il a fait son boulot, quoi. Il a montré le jeu aux gens qu'il n'aurait pas forcément vu dans un cas autre, quoi. Et puis, évidemment, moi, je suis toujours très, très friand des petits concours de design. Et alors là, en plus, quand j'ai été contacté par Olivier qui m'a dit « Ah, coucou, j'ai fait un jeu, moi aussi, si ça t'intéresse, va voir. » Ben, j'ai jeté un œil, forcément. Et vraiment, le jeu, c'est pas pour faire de... comment on dit, du copinage, mais vraiment le jeu est très très agréable, très sympa à jouer. Voilà, donc maintenant vous savez quoi faire plusieurs fois de vos 10 doigts, et donc jouez bien.
Merci Courju pour cette chronique. Donc on vous encourage à aller voir le print and play sur BGG, ça vous permettra de tester les jeux et les Kickstarter en particulier, on sait jamais ce qu'on achète. Au moins avec ça, si on peut faire une partie de test, c'est vrai que on sait mieux où on met son argent, quoi. Si déjà faut attendre un jeu 2 ans, au moins on sait pourquoi on l'attend, quoi. Et on va enchaîner avec une nouvelle chronique d'un nouveau chroniqueur. On est comme ça chez Proxy Jeux. Si vous avez envie de nous envoyer une chronique, vous nous contactez, un petit MP3 et l'affaire est dans le sac. Alors c'est Sébastien. Un auditeur de la première heure de Alsacien en plus, alors du coup on est d'autant plus content qu'il soit là. Et il a dit ouais, moi j'ai un jeu, moi c'est vraiment mon coup de cœur ce moment, alors j'ai envie d'en parler, vous n'en avez pas encore parlé. Et le jeu c'est Encore. Alors Encore, pourquoi Encore? Bah parce qu'on en veut toujours plus, on en demande toujours encore. Et donc on va écouter Sébastien nous parler de ce jeu de dés.
Les auditeurs ont la parole.
Allô ?
Bonjour, je m'appelle Sébastien. Vous ne m'avez encore jamais entendu dans Proxy Jeux, et pour cause, c'est la première fois que je prends le micro, alors que j'écoute le podcast quasiment depuis le début. Bref, le jeu dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Encore. Encore est un petit jeu de dés, édité en français par Schmidt Spieler en février de cette année, et dont les auteurs sont Inka et Marcus Brandt, couple d'auteurs bien connus, notamment pour Descendance, Clochemerle ou La Boca. Il se joue jusqu'à 6 joueurs, à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Il est disponible chez nos amis de Philibert au prix de 11,50€. Encore se présente sous la forme d'une petite boîte rectangulaire, et son contenu est assez sommaire, puisqu'il se compose uniquement d'un bloc de 100 feuilles, de 6 feutres, de 3 dés de couleur, de 3 dés chiffrés, et d'un feuillet de règles entièrement en français. Le but d'Encore est de marquer un maximum de points en cochant les cases présentes sur les feuilles. Ces dernières, toutes identiques, sont composées d'une grille de 15 par 7 cases colorées, en vert, jaune, bleu, rouge ou orange. Les cases adjacentes d'une même couleur forment un bloc. Les plus petits blocs sont formés d'une seule case, quand les plus gros en comportent 6. Sur certaines cases figure une étoile, dont nous verrons l'utilité lors du décompte des points. Les joueurs, qui disposent tous d'une feuille et d'un feutre, vont jouer à tour de rôle, et à son tour, le joueur actif va lancer les 6 dés, 3 dés de couleur, représentant les 5 couleurs du jeu, et une phase joker, et 3 dés chiffrés allant de 1 à 5 et une phase joker. Le joueur actif va ensuite choisir une combinaison comprenant un dés de couleur et un dés chiffré qu'il met de côté, puis va cocher les cases correspondantes. Par exemple, s'il prend un dés bleu et un dés 3, il va cocher 3 cases bleues adjacentes. Si le bloc comporte plus de cases, il ne pourra en cocher que ce que lui permet le dés, mais s'il en comporte moins, il devra en choisir un autre, ou passer son tour, car il a l'obligation de cocher exactement le nombre de cases représentées par le dé. La toute première case cochée de la partie doit obligatoirement appartenir à un bloc qui passe par la colonne centrale de la grille. Les fois suivantes, les croix doivent être adjacentes à des cases déjà cochées. Vous vous en doutez, les jokers permettent respectivement de choisir n'importe quelle couleur ou n'importe quel chiffre de 1 à 5. Mais chaque joueur n'a le droit d'en utiliser que 8 au cours de la partie. Dès qu'un joueur en utilise un, il coche un petit emplacement sur sa feuille qui lui indique les jokers restants. Et si un joueur a épuisé tout son stock, il ne pourra plus en utiliser. Ensuite, tous les autres joueurs peuvent, s'ils le souhaitent, choisir une combinaison de dés parmi les 4 restants et cocher les cases correspondantes sur leur feuille. Plusieurs d'entre eux peuvent choisir la même combinaison. Il n'y a que le joueur actif qui s'octroie l'exclusivité des dés qu'il met de côté. Puis le joueur suivant devient le joueur actif, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Quand un joueur a coché toutes les cases d'une colonne, il marque des points. Plus la colonne est éloignée du centre de la grille, plus elle vaut de points. Par exemple, la colonne centrale ne vaut qu'un point, alors que celle aux extrémités en valent 5. Il y a un avantage à remplir rapidement une colonne, car le premier joueur à le faire marque plus de points que les autres qui rempliraient la même colonne, mais plus tard dans la partie. Il en est de même pour les couleurs. Le premier joueur qui coche toutes les cases d'une couleur marque 5 points. Si d'autres joueurs cochent également toutes les cases de cette couleur par la suite, ils n'en marquent que 3. La partie se termine dès qu'un joueur a coché toutes les cases de 2 couleurs de sa feuille. On passe alors au calcul des scores. On additionne les points marqués grâce aux colonnes complétées et aux couleurs complétées. On marque 1 point de plus pour chaque joker non utilisé, puis on perd 2 points par étoile non cochée. Le joueur qui marque le plus de points remporte la partie. Vous l'aurez compris, Encore est un petit jeu de dés, très simple, très rapide, mais très malin et surtout très addictif. Il n'y a aucun temps mort puisque tout le monde joue à chaque tour. Bien qu'évidemment très dépendant des lancers de dés, on peut néanmoins élaborer quelques stratégies. Se précipiter sur les couleurs pour mettre rapidement fin à la partie, viser les étoiles pour ne pas perdre trop de points, se concentrer sur un seul côté de la grille, essayer d'atteindre rapidement les extrémités qui valent plus de points, etc. C'est un jeu tout public. J'ai eu l'occasion d'y jouer avec des novices, aussi bien qu'avec des joueurs habitués, adeptes de gros jeux, et il a plu à chaque fois. Pour conclure, Encore est mon petit coup de cœur du moment. Il ne paye pas de mine, mais il est vraiment très malin, et quand on commence, on enchaîne les parties. D'où son titre. Il comporte également une variante pour jouer en solitaire qui fonctionne fort bien. Si vous aimez les jeux de dés avec des cases à cocher, comme Quix ou Quinto, je vous encourage à vous pencher sur Encore, vous ne devriez pas le regretter. J'espère que ma première chronique vous aura plu, et d'ici une éventuelle prochaine, jouez bien.
Merci Sébastien pour cette nouvelle chronique. On espère que tu nous en enverras de nouvelles sur des jeux qu'on aurait ratés. On va ensuite enchaîner avec notre archiviste du jeu de société, c'est Dani. Elle nous ramène dans sa DeLorean en 1987 pour jouer à La Chasse aux Monstres. Un jeu de rapidité avec des ventouses, ça c'est toujours un grand succès. Et on l'écoute tout de suite.
Salut à tous, je vous propose cette fois-ci un voyage de 30 ans en arrière avec le jeu La Chasse aux Monstres, sorti en 1987 aux éditions Parker. C'est un jeu de rapidité et de reconnaissance visuelle qui plaît aux petits et aux grands. Le jeu est constitué d'un générateur de monstres, de cartes monstres et de baguettes à ventouses pour attraper les cartes. Le générateur de monstres est une sorte de bandit manchot à 3 roulettes. Un joueur l'active, les 3 roulettes tournent assez frénétiquement pour s'arrêter et former un monstre avec une tête, un corps et des pieds. Les joueurs repèrent ensuite la carte correspondant au monstre sorti du générateur et l'attrapent à l'aide de la ventouse au bout de leur baguette. Le plus rapide gagne la carte et le premier joueur qui gagne 5 cartes gagne la partie. C'est tout simple, très rigolo, testé en famille avec mes enfants de 3 et 5 ans et tout le monde s'est bien amusé. Il y a eu différentes éditions de ce jeu avec notamment une version Mickey et une version Pokémon. La dernière édition date de 2003 et l'on n'y attrape plus des monstres mais des visages, ce qui est un peu dommage car les monstres étaient plutôt sympas. Dans le même genre de jeu, je peux vous citer Avomark, sorti en 94 chez Nathan et qui propose lui d'attraper des cartes à l'aide d'un stick à ventouse que l'on tient point fermé. Les cartes représentent des logos de grande consommation très populaires à l'époque. On y retrouve quelques logos devenus vintage comme le tigre Esso, l'ours prospère, l'écureuil Mako, une sorte de voyage dans le temps pour fans de design graphique. Ce sont des questions qui orientent le jeu comme par exemple trouver 3 marques de dessert ou 5 marques de boisson. J'aimerais bien connaître l'impact d'un tel jeu sur la notoriété spontanée des marques qui y sont présentes, mais je vous avouerai que j'ai pas cherché sur le net si y avait des études de genre, et je doute qu'on trouve ça très facilement. Si jamais quelqu'un a des études de ce type sous la main, qu'il nous fasse signe et on les partage. En tout cas, c'est un jeu qui valide l'intérêt de la ventouse pour les jeux de reconnaissance visuelle et de rapidité, car il fonctionne très bien également. Alors, je suis pas sûre qu'il soit intéressant d'avoir les deux jeux, sauf si vous êtes atteint de collectionnite aiguë, et dans ce cas, je pourrais que compatir et ne pas faire grand-chose pour vous. Ce sont deux jeux que vous ne trouverez pas chez Philibert, comme d'habitude, mais qui se trouvent assez bien au hasard de brocante ou de vente d'occasion. Et en attendant la saison des vide-greniers qui débute bientôt, je vous dis, jouez bien!
Merci Dany pour cette chronique. Et oui, on est en mars là. Les brocantes vont bientôt recommencer. Préparez-vous à vous lever tôt le dimanche pour trouver. Donc premier jeu à chercher cette année, c'est la chasse aux monstres. Allez-y. On se retrouve sur les brocantes. On va rester dans le voyage temporel avec Olivier DPJ. Qui nous propose de nous parler de Time Story. Il prend un peu le relais de Flavien pour nous parler de Time Story. Et il nous explique donc le principe du jeu. Cette chronique est garantie sans spoiler. Au contraire des prochaines. Alors on va voir comment on va faire pour éviter de vous spoiler les scénarios, quoi. Donc on écoute Olivier tout de suite.
Et bonjour les joueuses, je suis Olivier DPJ et je vais vous parler de Time Stories. Time Stories est un jeu de Manuel Rosoy illustré par Pascal Quido, Benjamin Carré et David Locossu. Édité par les Space Cowboy en 2015, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans. La durée de partie indiquée sur la boîte est de 90 minutes, alors ne vous y fiez pas. 90 minutes, c'est pour une session de jeu, et pour une partie complète, vous pourrez faire 1, 2 ou 3 sessions de jeu, ça dépend à l'allure où vous allez. Le pitch du jeu est simple. Dans un futur fort fort lointain, le voyage dans le temps existe. Des univers parallèles ont été créés, des modifications ont été effectuées, pour le bien de l'humanité, bien sûr. Heureusement, l'agence Time est là pour régler les problèmes qui pourraient survenir et garantir la continuité temporelle. Au début de cette histoire, donc au début du premier scénario de la boîte de base, vous êtes des jeunes recrues, vous ne savez pas grand-chose du voyage temporel, si ce n'est que vous allez incarner une personne ayant physiquement existé dans l'espace-temps que vous allez visiter. Et vous allez avoir à enquêter et mener à bien la mission que Bob et le Time vous aura confiée dans cet espace-temps-là. Time Story est donc un jeu d'énigmes, et on peut se demander si c'est plutôt un jeu de plateau ou plutôt un jeu de rôle. Eh bien je dirais ça dépend. Ça dépend comment vous voulez jouer et quelle implication vous voulez mettre dans l'émission. On peut jouer de façon très technique en comptant les coups, étant donné que chaque action fait dépenser du temps et que le temps n'est pas illimité, il va falloir bien optimiser ses actions. Et puis vous pouvez jouer à Time Story comme nous on a joué, c'est-à-dire en prenant des risques, en essayant de découvrir un maximum de choses dans l'univers où on a été envoyé, sans pour autant perdre de vue la finalité de la mission. Time Story est donc un jeu de plateau, un jeu avec un plateau. Un plateau qui est plutôt pas mal fait, avec des zones pour la partie cartographie du lieu où on se trouve, des zones où on va pouvoir poser ses cartes et où on va pouvoir poser les événements qui vont intervenir dans le courant de la mission. Une zone avec le décompte du temps, toutes les actions qu'on va avoir à faire, à effectuer, nous coûtent du temps, et au début de la mission, le time va être très clair, on a un certain volume de temps alloué pour la mission et on ne réussira pas la mission complètement et avec brio si on prend trop notre temps et si on multiplie les runs. Un run, c'est un décompte de temps. On a au début de Asylum 25 unités de temps et le premier run qu'on va effectuer lors de ce scénario, c'est le décompte, la consommation de ces 25 unités de temps. Ce qui ne veut pas dire que vous avez perdu si vous mettez plus d'un run pour effectuer la mission, ça veut dire que vous la réussirez moins bien, sachant que un run pour faire une mission, c'est quasiment impossible. Vous l'aurez compris, le mécanisme de consommation du temps alloué, c'est un mécanisme qui est important dans Time Story. Mais revenons à notre plateau, parce qu'on s'est un petit peu éloigné en fait du matériel physiquement. Au bas du plateau, on va avoir 8 cases qui sont pas numérotées, qui sont lettrées de A à H et qui vont nous permettre de gérer ce qui se passe dans chaque lieu que l'on va explorer. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que en haut à gauche du plateau, il y avait la carte générale, le plan des lieux qu'on va visiter. Et pour gérer de façon plus fine les interactions, les actions qui vont se dérouler dans chaque lieu, le bas du plateau permet de poser 4, 5, 6, 8 cartes qui vont pouvoir être dévoilées les unes après les autres. Et c'est le principe même du jeu, on arrive quelque part, on a chaque joueur a un pion qu'il va poser sur une des cartes, il va prendre cette carte, il va en prendre connaissance. Si deux personnes ont mis leur pion sur une carte identique, c'est tout à fait possible, ils vont ensemble prendre connaissance de la carte. Et les joueurs vont pouvoir partager les informations qu'ils ont découvertes. Ils vont pouvoir partager les informations, ça ne veut pas dire que chaque joueur va lire toutes les cartes, ça veut dire que on va pouvoir communiquer et mettre en commun les informations qu'on a eues sur la carte. En général, les cartes nous permettent de faire des rencontres, de trouver des indices, des clés qui vont nous permettre d'ouvrir d'autres lieux et de retourner d'autres cartes. Et l'idée est donc de ne pas traîner, d'aller droit au but, de trouver ce qui s'est passé et d'arriver à résoudre l'énigme qu'on nous propose en un minimum de temps. Et c'est là que jeu de plateau et jeu de rôle se rencontrent. On a une partie où chaque joueur va expliquer ce qu'il a vu, va incarner son personnage. Les personnages ont des défauts et des qualités, avec des forces et des faiblesses qui sont très bien mis en avant. On aura le choix soit d'explorer l'univers qu'on nous propose, même si ça vient un peu en contradiction avec la mission qu'on nous a confiée, et puis surtout explorer les différentes voies qu'on nous propose, parce qu'il y a différentes voies dans la mission, c'est pas un chemin tout tracé, il y a des choses à faire, il y a plusieurs façons d'arriver au même endroit, et il y a même des cul-de-sac. Où on peut aussi être très technique dans son approche, noter tous les indices, optimiser chaque action pour résoudre l'énigme avec un minimum de coûts. Time Story est vendu dans une grosse boîte, à peu près 40€, et chaque mission annexe vient dans une petite boîte. Le matériel de base est toujours le même, c'est-à-dire on va toujours retrouver le plateau, on va retrouver ses pions, on va retrouver des jetons qui vont nous aider à avancer dans l'histoire. Et pour chaque mission, on va avoir des cartes qui vont raconter cette histoire, qui vont nous aider à développer la trame des énigmes. Le premier environnement qui nous est proposé, c'est Asylum, donc les années 1910-1920, un asile d'aliénés et des disparitions. La deuxième aventure, c'est Marcy Case, 1992, dans une ville des États-Unis, qui est ravagée par une épidémie, sombre épidémie. Et puis on change du tout au tout avec la prophétie des dragons, puisque on joue cette mission dans un univers parallèle qui est un univers héroïque fantasy. Pour les deux derniers scénarios, l'un se déroule dans la vallée du Nil à moins 11046 avant Jésus-Christ, et le suivant en 1914 sur un navire d'exploration en Antarctique. C'est donc des environnements qui sont complètement différents, avec des trames, des énigmes qui sont complètement différentes et une façon de jouer qui, même si elle est identique de scénario à scénario, se développe avec un fond de background complet. Je vous conseille de faire toutes les énigmes et vous verrez que il y a quelque chose qui émerge. Il y a des choses, des informations qu'on vous donne, des méta-informations par rapport au monde dans lequel vous évoluez et vous avancez au sein de l'entreprise Time. Information importante que je ne vous ai pas encore donnée, les joueurs vont recommencer chaque run au tout début de l'histoire. Par exemple, pour le scénario de base, Asylum, on commence obligatoirement le début de l'histoire dans la salle de repos. Et à chaque run, on recommencera l'histoire dans la salle de repos, avec son personnage, les informations qu'on aura collectées, mais il va falloir repasser par des points de passage pour avoir par exemple une clé qui nous ouvrira une porte, qui nous ouvrira un passage, qui nous permettra d'avancer dans l'histoire. C'est d'ailleurs l'une des deux critiques majeures qui ont été faites au jeu à sa sortie, le fait qu'il faille repasser run après run au même endroit, ce qui fait qu'en général il y a le premier run où on va découvrir les choses, où on va prendre le temps d'avoir des informations, et le deuxième run où on va rusher. Et c'est parfois quelque chose d'assez artificiel où on va essayer d'avancer très vite dans l'histoire pour pouvoir continuer là où on n'a plus d'informations et on doit faire évoluer le scénario. La deuxième critique majeure qui a été faite au jeu, c'est son prix et sa rejouabilité, ce qui fait que certaines mauvaises langues ont imaginé que le fait de devoir faire run sur run permet d'allonger artificiellement la durée de vie du jeu, et justifie ainsi son prix. En ce qui concerne le prix du jeu, la boîte de base est à une quarantaine d'euros, les missions sont à 20 euros, et en ce qui me concerne, je trouve ça complètement justifié. Au niveau du matériel, c'est un jeu Space Cowboy, donc un jeu qui a été édité de façon magnifique, les illustrations sont incroyables, le jeu est ultra ergonomique, il est même possible de faire des sauvegardes pendant la partie, c'est-à-dire de récupérer les cartes de chacun des personnages et les mettre de côté pour recommencer la partie au sein d'un run et pas sans attendre un run sur l'autre. Donc pour moi, le prix du jeu est complètement justifié. Au niveau du run, il est vrai que je préfère, moi, les premières parties, et je préfère prendre mon temps et essayer de découvrir un petit peu ce qu'il y a, l'énigme qu'on nous propose et les différentes façons de la résoudre, et j'aime pas rusher. Donc, j'ai eu la chance de jouer à Time Story avec des gens qui avaient la même vision que moi, et on a passé un excellent moment. La seule mission où ça a vraiment été pénible et où le fait de revenir à chaque endroit pour refaire les mêmes choses a vraiment été marqué, c'était Sous le Masque. Pour les autres scénarios, j'ai fait toutes les missions jusqu'à Endurance, et je ferai Endurance dans les semaines et mois à venir pour vous en parler. Tous les autres, je n'ai jamais été embêté du fait de devoir refaire les différents runs. Et puis si le prix du jeu vous rebute, vous avez certainement dans votre entourage quelqu'un qui a ce jeu, c'est un jeu à usage unique, c'est-à-dire que quand vous avez fait la mission, ben vous ne la referez plus, parce que vous savez comment ça se passe, vous connaissez les tenants et les aboutissants, donc a priori vous ne la referez plus avec le même groupe de joueurs, peut-être avec un autre joueur, en vous taisant et en voyant comment ça se passe. Ben, empruntez le jeu, ne faites pas de collectionnite, essayez de trouver quelqu'un qui l'a, empruntez-le deux soirées, et puis ben, ça vous coûtera rien, et vous passerez un excellent moment. Je peux pas en dire beaucoup plus sans spoiler les scénarios, donc comme je vous l'ai déjà annoncé, je vais faire des chroniques qui seront des chroniques spoil, où je vais raconter notre façon, ce que nous on a vécu et notre façon de jouer, avec les petites anecdotes. Ça sera beaucoup plus court que cette chronique-là, enfin j'espère que ça sera beaucoup plus court que cette chronique-là, et puis ben, je vais vous dire exactement ce que je pense de chaque scénario, avec une toute petite partie sans spoil au tout début de la chronique pour que vous puissiez l'écouter. Et une grosse partie spoil pour raconter les anecdotes, comment est-ce qu'on a vécu la mission et à quel point je l'ai aimé. Cela dit, et en attendant, je peux vous dire que j'ai beaucoup apprécié Time Story. J'étais un peu fâché avec les Space Cowboys parce que je pensais que les premiers jeux qui ont été édités n'étaient pas à la hauteur des talents de ce studio. Et là, je suis complètement acquis à la cause de Space Cowboy et je suis très content qu'ils aient pris autant de temps pour sortir ce petit bijou. Time Story, c'est donc un jeu coopératif de Manuel Rozoy, édité chez les Space Cowboys. Ça coûte une quarantaine d'euros chez Philippe Bernet. Je vous dis donc à dans un mois pour vous parler de Asylum. Et en attendant, jouez bien!
Merci Olivier pour cette chronique sur Time Story. Tant qu'on est dans le voyage temporel, on est tombé sur une vieille chronique. On voulait faire un épisode spécial Noël où chacun, chaque chroniqueur nous présente un jeu. en partenariat avec, avec Philibert, mais finalement on s'y est pris trop tard. On était tous dans les magasins à acheter nos cadeaux, sauf Courju qui lui avait déjà préparé tous ses cadeaux de Noël. Et du coup, lui, il nous a fait une petite chronique sur Smash Up. Alors, on est retombé dessus, on s'est dit, bah c'est bête, il a bossé, faut pas qu'il ait bossé pour rien. Et du coup, on voulait vous la remettre maintenant. Au milieu de tous ces épisodes de voyage temporel, on repart à Noël avec Courju.
Salut les joueurs, salut les joueuses. Alors ma sélection pour Noël 2016 est un jeu sorti en 2012, mais toujours disponible chez Philibert, et que moi j'ai découvert assez récemment et j'aime bien, c'est le jeu Smash Up. Smash Up c'est un jeu de cartes, un jeu d'affrontement, qui a pas quelque chose de vraiment innovant par rapport à d'autres jeux de cartes. Il y a des créatures qui ont une valeur de force, il y a des actions qui permettent de défausser des cartes, piocher plus de cartes, c'est des choses assez classiques. Mais il a une thématique très sympa, c'est vraiment l'affrontement entre tout et n'importe quoi, des dinosaures, des zombies, des robots, des ninjas, etc. Et le principe du jeu au départ, c'est que chaque joueur va choisir deux de ses factions et mélanger les deux decks ensemble pour faire son jeu pour cette partie-là. Donc vous allez pouvoir jouer un coup des zombies robots, une autre fois des ninjas dinosaures ou des sorciers zombies, etc. Donc ça donne des choses assez rigolotes, assez originales. Il y a des combinaisons qui vont très bien ensemble, d'autres pas du tout. Le jeu est pas forcément parfaitement équilibré, mais c'est un jeu très léger qui se joue vraiment sur le délire, sur de l'opportunité. Le principe, quand on joue, donc on peut jouer jusqu'à 4, c'est qu'en fait il y a des cartes au centre de la table dont on va essayer de prendre le contrôle. Chacun va jouer des créatures sur ses cartes, et au bout d'un certain temps, les cartes seront résolues. Celui qui aura joué le plus de puissance sur la carte va gagner le plus de points de victoire. Et puis après, tout le reste, c'est des effets entre les cartes. C'est un jeu qui est très simple à apprendre, qui est vraiment très familial, avec une thématique très rigolote, et évidemment beaucoup d'extensions, comme souvent sur ce genre de jeu de cartes, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Smash Up, c'est un jeu de Paul Peterson, qui est édité chez AEG et francisé chez Yellow. Un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour une durée de 1 demi-heure à 45 minutes, à partir de 10 ans. Et c'est un jeu qu'on trouve pour 25€ chez Philibert, avec plein d'extensions. Voilà, amusez-vous bien et joyeux Noël.
Merci Courju pour cette sélection de jeux. C'est vrai que Smash Up, c'est un petit jeu bien sympathique et intemporel. Donc on vous encourage à aller le tester à l'occasion. Voilà, c'est tout pour ces chroniques. Que vous ayez aimé notre émission ou nous, faites-nous le savoir en nous laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr. Proxy avec un i, jeu avec un x. Vous y trouverez toutes les infos sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook. Notez-nous sur iTunes, mettez-nous des commentaires et surtout parlez-nous autour de vous. On se retrouve le mois prochain et en attendant, jouez bien.